Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Philippe.
Alors, nous avions parlé la dernière fois du péché qui était rupture de la relation à Dieu, mais qui aussi ne se comprenait, ne se reconnaissait que qu'avec la liberté, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit libre pour qu'il y ait péché. Le catéchisme a cette phrase, donc c'est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu sur l'homme que l'on comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. Mais on entend parfois des raisonnements. Certains vont dire, mais alors, d'abord, cette liberté, elle est donnée par Dieu, le catéchisme le dit, et c'est comme ça qu'on comprend les récits de création. La liberté est donnée par Dieu à l'homme. Finalement, ça ressemble, certains vont dire, mais c'est un peu un cadeau empoisonné. D'abord, si Dieu donne la liberté, y a-t-il encore liberté? Et si Dieu a donné la liberté et que c'est avec la liberté qu'on va être capable de pécher, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Est-ce que si Dieu n'avait pas donné la liberté, ben, l'homme ne serait pas tombé dans le péché? Voilà les raisonnements qui sont absurdes, enfin, je ne sais pas s'il faut dire qu'ils sont absurdes.
Spécieux, je dirais. Spécieux. Parce qu'on ne fait pas assez bien les distinctions. Dieu est libre, ça fait partie d'un attribut divin, à cause de sa volonté et de ce qu'il est, la vérité tout entière. Et de par le fait, il est libre. Et il a voulu que nous soyons à l'image et ressemblance de ce qu'il est. Donc il nous a créés libres à tel point que, d'une certaine manière, Dieu ne peut pas nous contraindre, parce que sinon il attaquerait cette propre image, il la réduirait à rien. Saint Thomas d'Aquin dit dans son traité sur la vérité, l'homme ne peut être contraint par rien. Et même pas par Dieu, c'est impressionnant de dire cela. C'est-à-dire, sinon nous casserions, si nous étions contraints dans notre liberté, par Dieu lui-même. Nous casserions l'image, nous ne serions plus à l'image et ressemblance. La grosse difficulté pour des personnes, c'est de comprendre que nous ne sommes pas des pions, comme dans un jeu d'échecs ou dans un jeu d'atomes, où tout avance et tout se distribue comme soit par hasard et soit par nécessité. Jacques Monod avait écrit ce grand livre « Le hasard et la nécessité ». On avait l'impression que les réalités s'étaient soit jetées comme ça, par hasard, comme un tas dont on ne comprend rien, comme dirait Héraclite, ou au contraire que l'homme ou certains avaient mis de l'ordre et qu'on avait du mal à comprendre ce qui était dans le fond ordonné, qui était marqué par une certaine nécessité, et ce qui était dans le hasard. En fait, la liberté n'est pas à ce niveau. La liberté se joue entre des biens qui sont de nature différente, que l'on peut choisir en vue d'un bien supérieur. Les chemins sont divers, et c'est là la grandeur de l'homme, c'est de pouvoir utiliser des chemins variés pour atteindre le but. Nous le savons nous-mêmes dans le christianisme, pour bien nous montrer notre liberté, on propose aux personnes soit de vivre comme célibataire, soit de vivre comme célibataire consacré, soit de vivre comme marié. Et ces trois voies, nous disons qu'elles sont toutes possibles pour le chemin de la sainteté. Nous ne disons pas que l'une serait en contradiction avec l'autre. Au contraire, on dira plutôt qu'elles sont complémentaires pour former le peuple de Dieu. Et le choix du bien montre notre liberté, à tel point que saint Thomas d'Aquin dit cette parole extraordinaire, « Toute puissance est, de par sa nature, ordonnée au bien, la puissance volontaire aussi bien que les autres. Pouvoir faire le mal est donc un défaut et une misère. » La liberté, au contraire, est une perfection. La liberté est une perfection. Et malheureusement, à cause de la chute, à cause de ce que nous avons décrit comme étant ce handicap que l'homme a créé en lui-même, il y a eu une sorte de dévers qui fait que, au lieu de choisir entre deux biens, nous pouvons être tentés de choisir entre un bien et le mal. Et c'est là que nous touchons à la fragilité de l'homme qui est marquée par le péché originel. Tant que nous n'avons pas saisi que deux biens qui sont seulement en opposition apparente ne sont pas contradictoires, nous n'avons pas encore tout à fait bien saisi où est la véritable liberté. Aux anges, il appartient aussi la possibilité de choisir. Les anges peuvent choisir entre un bien, ils ne sont pas des pions, ils peuvent choisir un bien plutôt qu'un autre bien, puisqu'ils sont créés à l'image et ressemblance de Dieu. La grosse différence, c'est que les bons anges ne choisissent que un moyen qui est bon, c'est-à-dire entre deux biens, ils choisissent toujours un bien. Nous, notre malheur, tant que nous ne sommes pas sauvés, c'est que nous pouvons choisir à la place d'un bien, une absence de bien qui est le mal, et ainsi chuter. Mais dans les deux cas, que ce soit le libre arbitre de l'ange ou que ce soit le libre arbitre de l'homme, c'est une perfection, c'est un bien qui nous fait ressembler à ce que Dieu est dans sa profondeur.
Donc cette expression « abus de la liberté », je l'aurais presque plutôt entendu comme... C'est mauvais usage de la liberté.
Et voilà, mauvais usage de la liberté. Je crois que c'est tout à fait juste. On avait la possibilité de choisir, et le choix nous montre la grande libéralité de Dieu. Dieu est libéral, il nous laisse choisir des biens divers. Saint Paul oriente plutôt vers l'imitation de ce qu'il est. Il le dit aux gens mariés en disant « J'aimerais que vous soyez tous comme moi. » Nous savons que Paul était resté célibataire pour le royaume, mais il laisse le choix. Il dit, celui qui se marie, celui qui se décide finalement à ne pas brûler et à se marier, fait bien, mais celui qui ne se marie pas fait mieux. Il montre des gradations. C'était la façon dont Paul marque les différents degrés dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 7, les différents degrés de choix de bien, mais les deux sont bons. Jamais nous sommes tombés dans l'ancratisme qui est ce défaut des premiers siècles dans lequel on disait le mariage est mauvais par rapport à la vie religieuse. Et il y avait une tentation comme ça à un moment, une sorte de supériorité qui s'était emparée de certains esprits de supériorité sans comprendre que toutes les voies sont bonnes, mais c'est vrai que pour certains, il y en a qui sont préférables, ils iront plus vite sur ce chemin. Il ne faut pas qu'ils choisissent ça par orgueil, il faut qu'ils choisissent parce que c'est le meilleur moyen pour eux pour aller à la sainteté. C'est la volonté de Dieu, finalement. Et que toutes ces œuvres qui sont dans leur diversité et dans leur grandeur se renvoient l'une à l'autre pour manifester la grandeur de Dieu, soit à travers le mariage, soit à travers la vie consacrée, soit sous d'autres formes que l'on peut imaginer, mais qui reste toujours dans la droiture du bien, et non pas dans l'absence de bien, dans le vice, dans le mal, qui est la marque même de cet abus de liberté dont parle le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire une déviation par rapport à cette capacité de choix que nous avons.
Il y a péché lorsqu'on choisit le mal plutôt que le bien, mais c'est aussi de l'ordre du péché lorsque on considère comme mal quelque chose qui est bien ou que va peut-être considérer comme mal parce que ce n'est pas au niveau de l'échelle de bien que l'on voudrait, et c'est une sorte de déformation
exactement, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave parce que on parle à un moment du péché contre l'esprit qui ne peut pas être pardonné. Jésus dit que tout ce qui a été dit contre le Fils de l'homme peut être pardonné, mais le péché contre l'esprit ne peut pas être pardonné. Pourquoi ? Parce que si Dieu veut vous donner la miséricorde, il veut vous donner le bien, et que vous appelez cela mal, vous devenez complètement hermétique. Or, le prophète Isaïe, au chapitre 5, est catégorique. Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité, qui appellent mal le bien et bien le mal. C'est impossible d'être à ce moment-là atteint par la miséricorde, puisque la miséricorde est le bien. Et si je l'appelle mal, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité d'être atteint par le bien. Et donc c'est irrémissible. Hein. Et saint Paul le dira dans l'épître aux Romains, au début de l'épître aux Romains, au chapitre 1, ils sont impardonnables. Alors qu'ils avaient l'intelligence pour aller à Dieu, pour comprendre quelle était la volonté de Dieu, ils ne l'ont pas fait. Ils sont impardonnables. Il y a des moments où, une fois qu'on a appelé bien mal et le mal bien, on a jeté la confusion et on empêche l'accès à Dieu. Et donc c'est ce qu'il y a de plus grave, c'est au niveau de l'intelligence du bien que le mal le plus grave peut s'incruster un jour dans le cœur de l'homme. Alors il peut y avoir des cas, je dirais, où il y a une ignorance invincible qui est transmise par les parents, par une structure de péché, et là l'Église est très miséricordieuse, elle dit même des gens qui ont une ignorance invincible mais dont ils ne sont pas coupables pourront être pardonnés. Par contre, ne pourront pas être pardonnés ceux qui, en toute lumière, en toute connaissance, se dirigeraient vers le mal en l'appelant leur bien. Et ça, malheureusement, nous en rencontrons, et il n'y a plus qu'à espérer qu'un jour la maladie ou le choc de la mort les fasse retourner au dernier moment vers le Seigneur, qui leur permettra d'ouvrir les yeux. Le grand curé d'Ars le dit à propos d'un suicidé dont on lui demandait la question, entre le pont et l'eau, alors qu'il allait se jeter dans l'eau pour se noyer, et il y a eu l'âme à crier vers Dieu. Et on peut toujours l'espérer juste avant la mort au dernier moment.